الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد إخوتي في الله فما زلنا نقرأ كتاب شرح الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى مع شرح فضيلة الشيخ محمد بن سعيد الرسلان حفظه الله وما زلنا في باب مولى القوم من أنفسهم مولى القوم من أنفسهم فقال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرني إسماعيل بن عبيد عن أبيه عبيد عن رفاعة بن رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي عمر رضي الله عنه اجمع لي قومك فجمعهم فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال قد جمعت لك قومي فسمع ذلك الأنصار فقالوا قد نزل في قريش الوحي فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فقام بين أظهرهم فقال هل فيكم من غيركم قال نعم فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا قال النبي عليه الصلاة والسلام حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا عتيقنا ينسب نسبتنا وأنتم تسمعون إن أوليائي منكم المتقون فإن كنتم أولئك فذاك وإلا فانظروا لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم ثم نادى فقال يا أيها الناس ورفع يديه يضعهما على رؤوس قريش أيها الناس إن قريشا أهل أمانة من بغى بهم قال زهير أظنه قال العواثر كبه الله لمن خيريه يقول ذلك ثلاث مرات. طيب كريم بسم الله حديث نمبر 75 Barakallahu fik. Tayyib. فقد شرحنا بداية هذا الحديث ووصلنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ابن أختنا منا، ابن أختنا منا، مع أن قريشا قد قالوا ماذا؟ قالوا في الحديث بعد أن سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيكم من غيركم؟ قالوا: نعم، فينا حليفنا، أي زعموا أن حليفهم ليس منهم. وقالوا: وابن أختنا، بمعنى أن ابن أخواتهم ليس منهم كذلك، وموالينا، أن مواليهم ليسوا منهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: حليفنا منا، وابن أختنا منا، وموالينا منا. إذن يقول هذا قاله صلى الله عليه وسلم لإبطال ما كانوا عليه في الجاهلية من عدم الالتفات لأولاد البنات، أولاد البنات، فضلا عن أولاد الأخوات، حتى قال شاعرهم: بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. Donc, on s'est arrêté la fois dernière, vous vous rappelez, sur le passage quand Al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé donc Quraysh, le peuple, la tribu de Quraysh, est-ce qu'il y avait parmi eux des gens qui ne font pas partie d'eux, qu'ils considèrent comme ne faisant pas partie de leur clan ou de leur tribu. Ils ont dit oui. Ils ont dit: il y a parmi nous des ce qu'on appelle des hulafa, un halif, des alliés, d'accord, des gens qui n'ont pas le même sang, n'ont pas de lien de parenté avec le clan, mais ils ont un pacte de sécurité et de défense, d'accord, avec eux, ainsi que les enfants de nos sœurs, d'accord, c'est là qu'on s'était arrêté, ainsi que nos esclaves affranchis, al-mawali. C'est le pluriel de Al-Mawla, l'esclave affranchi. Donc il dit ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en répondant à leur mauvaise croyance, il dit: le fils de notre sœur est des nôtres. Pourquoi? Parce qu'il dit le shaykh que à l'époque avant l'islam, pré-islamique, eh bien, les gens n'accordaient aucune importance aux enfants issus de leurs sœurs ou même de leurs filles. Ça y est, comme il disait un de leurs poètes de l'époque pré-islamique, il disait les enfants de nos garçons sont nos enfants. Les enfants de nos garçons sont nos enfants. Alors que les enfants de nos filles sont les enfants des hommes lointains, des hommes éloignés. Yani, ce n'est pas nos enfants à nous. C'est les enfants de leur père. D'accord ? Et ils sont éloignés, les ba'id. Ils ne sont pas... Ils y considéraient ce prince. Pourtant, c'était leur neveu. Leur neveu ou leurs petits-enfants. Eh bien, le fait que c'était c'était pas les enfants de leurs garçons, mais les enfants de leurs filles ou de leurs sœurs, eh bien, ils ne les considéraient pas comme étant de leur clan ou de leur tribu. D'accord ? C'est pour ça que le prophète ici, il a corrigé cette croyance-là. Il a dit non, ce sont les nôtres, ils font partie des nôtres. D'accord ? Même si c'est l'enfant de notre sœur ou notre fille, ils font partie des nôtres. Faqal, fakanu yanfunahum. Hein ? Faqal, sallallahu alayhi wa sallam, hadha li ajli qat'i tilka al-'adat al-jahiliyya. وليعيد أمر الرحم والقرابة إلى ما ينبغي أن يكون عليه. C'est pour ça que le prophète عليه الصلاة والسلام Il a dit ça justement pour stopper cette tradition. Cette tradition, cette façon de penser et cette coutume anti-islamique afin que le lien familial refasse surface. Notamment concernant ces enfants-là qui sont les neveux ou les petits-fils ou les nièces ou les petites-filles, hein, du côté de la sœur ou du côté de la fille. طيب معلوم أن التقوى في أحسن ما عرفت به فعل الأوامر واجتناب النواهي هذا من قال الشيخ من أحسن التعاريف لكلمة التقوى ما هي التقوى قال الشيخ من أحسن ما يقال أو ما عرفت به فعل الأوامر واجتناب النواهي هذا تعريف من أقرب الطريق وأقصده فإذا فعلت ما أمرت به واجتنبت ما نهيت عنه كنت تقيا كنت تقيا متقيا أسأل الله أن نكون منهم من المتقين. Donc il dit le cheikh, il est connu maintenant. Donc là on va parler de la taqwa. On va parler de la taqwa parce qu'il dit dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam وأنتم تسمعون إن أوليائي إن أوليائي منكم المتقون
السلام
عليكم وعليكم السلام ورحمة الله إذا من هو المتقي سكي المتقي سكي التقي أو المتقي il dit parmi les définitions données par les gens de science de ce mot التقوى parmi l'une des meilleures il dit tout simplement le fait de d'obéir aux ordres et de s'éloigner des interdits. Si on te demande, c'est quoi la taqwa ? C'est quoi la piété religieuse ou la crainte pieuse ? Hein ? Il y a plusieurs traductions de ce mot-là, taqwa, mais tout simplement, taqwa, c'est le fait d'obéir aux ordres d'Allah et de s'éloigner des interdits d'Allah, tabarak wa ta'ala. Donc il dit, ça c'est l'une des, ou la définition la plus brève, la plus concise et celle qui va yani vraiment, qui est plus proche de la réalité de ce terme là donc il dit si tu fais ce que Allah il t'a demandé et tu t'éloignes de ce que Allah il t'a interdit eh bien sache que tu es un taqi t'es un taqi, t'es un muttaqi t'es quelqu'un qui fait preuve de taqwa bien sûr chacun en fonction du coup de son degré hein, de foi, son degré d'obéissance, etc. Il y a aussi le ta'rif de Talq ibn Habib, un tabi'i, rahimahullah, qui a dit At-taqwa, an ta'mala bi ta'atillah. Ma hiya at-taqwa? An ta'mala bi ta'atillah. Ala nourin min Allah, tarju thawab Allah. Wa an tatruka ma'siyat Allah. على نور من الله تخاف عقاب الله l'une des meilleures définitions aussi de la taqwa il a dit Talq ibn Habib un parmi les tabi'in rahimahumullah il a dit taqwa c'est le fait que tu obéisses à Allah tabarak wa ta'ala sur une lumière d'Allah c'est-à-dire avec science tarju thawab Allah en espérant la récompense d'Allah et que tu délaisses la désobéissance à Allah sur une lumière d'Allah avec science takhafu 'iqab Allah pourquoi parce que tu crains tu redoutes le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce qui est bien c'est que dans cette définition on a trois choses on a al-amal al-ilm wal-ikhlas on a trois choses dans cette définition on a l'acte on a la science et on a l'ikhlas la sincérité exclusive à Allah l'amal l'acte c'est où c'est quand il dit an ta'mala bi ta'atillah wa an tatruka ma'siyat Allah que tu obéisses à Allah et que tu délaisses la désobéissance à Allah ça c'est l'acte d'accord le fait de faire ou de délaisser tayyib ala nouri min Allah sur une lumière d'Allah, ça c'est la science. Quand tu fais une chose, quand tu obéis, tu le fais avec science. Quand tu délaisses une chose, tu la délaisses avec science aussi. Et l'ikhlas, elle est dans la, les mots tarajou thawab Allah, que tu espères la récompense d'Allah et que tu redoutes le châtiment d'Allah. Ça, c'est l'ikhlas. Pourquoi tu obéis à Allah? Parce que tu espères qu'Allah te récompense. Pourquoi tu t'éloignes de ces interdits? Parce que tu redoutes, tu crains le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? هذا هو الإخلاص والله تعالى أعلم وأعلم أن الإنسان يكرم ويشرف بتقوى الله عز وجل ومن كان تقيا كان كثير الخير في الدنيا رفيع الدرجة في الآخرة. Donc sache que la personne ne peut devenir quelqu'un de noble, quelqu'un de digne qu'à travers la taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Tu n'es pas digne à travers autre chose que cela. Même si tu es quelqu'un qui possède une fortune immense, mais si tu n'as pas la taqwa d'Allah, tu ne seras pas considéré auprès d'Allah comme étant quelqu'un de digne, de noble et d'élevé. Donc celui qui est taqi, celui qui craint Allah, qui possède cette taqwa, eh bien c'est quelqu'un qui possédera énormément de biens dans la vie terrestre et quelqu'un qui sera élevé à des hauts degrés dans l'au-delà. ما يؤخذ من الحديث أولا في الحديث منقبة عظيمة لقريش وأنهم متصفون بالصدق والأمانة وأنهم جديرون بالأخوة والحب والولاء. Qu'est-ce qu'on tire du hadith? Premièrement, on a une qualité, une grande qualité que on peut trouver chez le clan, la tribu de Quraysh, les descendants de Quraysh. Du fait que le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, les a qualifiés de véridiques et de loyaux, al-amana. Hein, ils n'étaient pas connus pour trahir, au contraire, ils étaient connus pour être des gens loyaux, qui avaient une parole, même à l'époque pré-islamique. D'accord? Donc l'islam, quand il est venu, ça n'a fait que accentuer cette qualité-là, qui était la loyauté et la véracité. Et donc, il mérite, par rapport à ça, il mérite notre amour, notre fraternité et notre soutien. Thalithan, يجوز للمولى المعتق أن ينسب نفسه إلى القبيلة التي اهتمت بإعتاقه وإليها ولاؤه أو التي هو يعيش في كنفها وتحت رعايتها مع بيان صفته الأصلية كما مر وإن كان الحديث ضعيفا لجهالة ابن حبيب. قال ابن عمر فهلا قلت من مواليهم حتى ترتفع الجهالة وحتى يبين الأصل. نعم. Parmi aussi les fawaid, les enseignements, il est permis à l'esclave affranchi, al-mawla, al-mu'taq. Donc on a al-mawla, al-mu'taq et al-mawla, al-mu'taq. On avait vu que al-mawla, c'est un des mots en arabe qui pouvait signifier quelque chose et son contraire en même temps. Al-Mawla, il peut vouloir dire le maître, comme il peut vouloir dire l'esclave affranchi. Vous voyez? C'est pour ça qu'il dit les chers ici, Al-Mawla Al-Mu'taq. C'est qui Al-Mawla Al-Mu'taq? C'est l'esclave affranchi. Alors que Al-Mawla Al-Mu'taq, c'est celui qui l'a affranchi. C'est son ancien maître. Celui qui l'a affranchi, on appelle Al-Mawla Lakin Al-Mu'taq. Alors que l'autre, c'est le Mu'taq. Donc, du coup, s'il n'y a pas le mot Al-Mu'taq ou Al-Mu'taq, il faudra que tu te réfères au contexte pour savoir si on parle de l'esclave ou si on parle du maître. D'accord? Et même s'il y a le mot Al-Mu'taq, il faut deviner aussi la haraka. S'il n'y a pas les harakat, est-ce que c'est le Mu'taq ou Al-Mu'taq? Dans ce cas-là, il faudra te référer aussi au contexte. Hein? T'as ça, comme disait un de mes profs d'arabe, il me disait, les mots en arabe, c'est comme un poisson. Un poisson, quand tu le sors de l'eau, il meurt en quelques secondes. D'accord? Eh bien, le mot, c'est pareil. Le mot en arabe, tu le sors de sa phrase, c'est comme s'il ne voulait plus rien dire. Un mot, tu le sors de sa phrase, Il peut vouloir dire, yani, des fois même des dizaines, voire des dizaines de sens différents. Une fois que tu l'auras mis dans une phrase, là oui, là il pourra prendre un sens propre à lui dans cette phrase-là. D'accord ? Donc, il est permis à ce maoula, à cet esclave affranchi, de s'affilier au clan ou à la tribu qu'il a affranchi. D'accord ? Même s'il n'a aucun lien familial avec, mathalan, Quraysh, si c'est cette tribu qu'il a affranchi, il peut dire, je suis de Quraysh. Je suis un Qurashi, mathalan. D'accord ? Ou alors aussi, celui qui a vécu sous l'autorité d'une tribu ou d'un clan, sous leur protection, même s'il n'a aucun lien familial avec eux, eh bien, il peut s'affilier à eux en disant « je suis de telle ou telle tribu ». D'accord ? Même si il dit, et comme on a vu dans le hadith de Ibn Omar, hein, on a vu que Ibn Omar avait demandé à l'esclave affranchi de préciser, parce qu'il avait répondu, vous vous rappelez, je suis de Min Taymi Tamim. Donc il a répondu, je fais partie de la tribu de Taymi Tamim. Alors qu'en vérité, il n'avait aucun lien avec eux, si ce n'est qu'il était un ancien esclave affranchi de Taymi Tamim. Et Ibn Omar de lui répondre, pourquoi n'as-tu pas dit, je suis un des anciens esclaves de Taymi Tamim? D'accord ? Mais le hadith, il n'est pas authentique. On a vu qu'il était faible. Quoi qu'il en soit, pour sortir peut-être du doute, eh bien, c'est bien de préciser, de dire je suis un ancien esclave de telle ou telle tribu, au lieu de dire je suis de telle tribu de manière directe, sans préciser. Allah Ta'ala a'lam. Thalithan, bayan anna taqwa afdalu min al-hasabi wal-nasab wal-mali wal-jah. Qala alayhi salatu wassalam, inna awliya'i minkum al-muttaqun. فَإِنْ كُنْتُمْ أُولَٰئِكَ فَذَاكَ وَإِلَّا فَانْظُرُوا وَلَا يَأْتِ النَّاسُ بِالْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَأْتُونَ بِالْأَثْقَالِ فَيُعْرَضَ عَنْكُمْ. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يكرم ويشرف بتقوى الله عز وجل وأن من كان تقيا كان كثير الخير في الدنيا رفع الدرجة في الآخرة فالأمر كله يدور على التقوى والإكرام عند الله تعالى منوط بها إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحصيل التقوى فإنه بها يعظم قدره في الدنيا ويكرم بها عند الله تعالى ويرتفع قدره. Troisièmement, dans ce hadith, on constate et on comprend que la taqwa est meilleure que l'arbre généalogique. La taqwa, elle est meilleure que la réputation de ta famille ou de tes ancêtres ou de ton clan. Elle est meilleure que l'argent, que les biens. Elle est meilleure que les fonctions que tu pourrais avoir dans la société. Parce qu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mes alliés, c'est-à-dire mes biens, ceux que j'aime et ceux pour qui j'offre ma mouwalat, mon amour, mon soutien, parmi vous, ce sont al-muttaqoun, les pieux. Donc là, quand il parlait à qui ? Il parlait à Quraysh. Il a dit, mes alliés parmi vous, ce sont les pieux. Ce sont les pieux. Si vous êtes pieux, eh bien vous êtes mes alliés. Je vous offre ma mouwalat, mon amour, mon soutien. Hein? Et dans le cas contraire, unzuru, dans le cas contraire, réfléchissez bien, hein, la destination qui attend ceux qui désobéissent à Allah tabarak wa ta'ala. La ya'tin nasu bil a'mal yawm al-qiyamah, que les gens ne viennent pas yawm al-qiyamah avec des œuvres et vous venez avec des fardeaux, avec des péchés. C'est pas parce que vous faites partie de Quraysh, hein, que vous avez le droit de désobéir à Allah ou de délaisser les obligations d'Allah. Attention, pas que les gens qui ne sont pas de votre tribu ne viennent pas avec des bonnes œuvres et vous venez yawm al-qiyamah avec des péchés. Là, donc ici il a exposé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'homme, encore une fois, ne sera noble, ne sera digne, méritera l'agrément d'Allah tabarak wa ta'ala qu'en étant pieux, qu'en étant taqi. Et quand il sera taqi, pieux, eh bien il possédera énormément de biens ici-bas et sera élevé dans l'au-delà. Donc on voit qu'ici, l'affaire tout entière ne tourne qu'autour de at-taqwa, la crainte d'Allah, la piété religieuse. Faire ce qu'Allah t'a demandé de faire, t'éloigner de ce qu'Allah t'a demandé de t'éloigner. Naam. Donc, l'ikram, la dignité, la noblesse auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, elles sont dépendantes de quoi? De la taqwa. Encore une fois, tout tourne autour de la taqwa. Comme il dit Allah Jalla wa Ala, dans le sens rapproché, Sourate al-Hujurat, le plus noble parmi vous pour Allah, atqakum, c'est le plus pieux. Le plus pieux. Le plus noble pour Allah. Celui qui a le plus de valeur pour Allah, tabarak wa ta'ala, le meilleur auprès d'Allah, parmi vous, c'est le plus pieux. Ce n'est pas celui qui descend de tel ou tel clan. Ce n'est pas celui qui descend de telle ou telle tribu, hein, ou qui a du sang arabe, ou du sang asiatique, ou du sang africain, ou du sang américain, ou européen. Là. Celui le plus important auprès d'Allah, le plus digne, c'est celui qui a le plus de taqwa. Donc l'être humain, il doit faire des efforts afin d'acquérir, afin d'obtenir ce niveau de taqwa. Il doit se remettre en question et se dire, est-ce que j'ai un niveau de taqwa qui est correct, ou est-ce qu'au contraire je suis loin de l'avoir atteint? Taïb. Car à travers cette taqwa, mon frère, eh bien ta valeur augmentera auprès d'Allah et tu gagneras l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu seras donc noble pour lui. Hein? Reviens à ce verset tout le temps. Inna akramakum indallah atqakum. Ne veux-tu pas être quelqu'un de karim pour Allah subhanahu wa ta'ala? Quelqu'un qui possède karama, la noblesse, les qualités qu'Allah jalla wa ala il aime. Tout simplement, ne veux-tu pas qu'Allah il t'aime? Si tu veux qu'Allah il t'aime, sois pieux. Et quand Allah il t'aime, sache que alhamdulillah, tu as ton ticket pour le paradis. رابعا دليل على أن من عاش في قوم وليس من نسبهم عاش بين أظهرهم وجد وتناسل نسله وهو في قبيلة فهو منهم ينتسب إليهم ويرجع إليهم وله الحق عليهم ولهم كذلك الحق عليه ولو لم يكن من نسبهم بل أوى إليهم وهكذا المولى الذي كان مملوكا ثم عتق عتقه قومه فيعتبر واحدا منهم وفردا من أفرادهم يستحق منهم الصلة والتعاون والاعتراف بالنسب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه أن في قريش معهم الموالي ومعهم الأحلاف وكان فيه الحلف في الجاهلية فيأوي إلى قبيلة أو الجماعة يأوون إلى قبيلة فيكونون حلفاء فهم منهم وينتمون إليهم وينتسبون إليهم ويدخلون في سلمهم لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. Quatrièmement, on a la preuve dans ce hadith que celui qui a vécu au sein d'un clan, au sein d'une tribu, d'un peuple, même s'il n'a pas de lien direct avec eux, il n'a pas de lien de sang ou de lien familial avec les membres de cette tribu-là, mais il a vécu avec eux, il a grandi avec eux, il s'est marié, il a épousé une femme, il a eu des enfants, tout ça au sein de la même, de cette tribu-là, de ce clan. Taïeb, eh bien, il peut être considéré comme faisant partie de eux. D'accord ? S'il a grandi, mathalan, عند بني تميم, le clan de Tamim. D'accord? Même s'il n'a aucun lien familial avec eux, s'il a grandi avec eux, il s'est marié, il a eu des enfants, etc., etc., eh bien, il peut prétendre faire partie de Bani Tamim et s'affilier à eux. Taïb. Et donc, vous savez que lorsque tu fais partie d'une tribu ou d'un clan, etc., eh bien, tu as des droits comme des devoirs au sein de la tribu. Eh bien, il aura du coup des droits par rapport aux autres, et les autres aussi auront un droit par rapport à lui. Donc, il sera concerné par les règles aussi du clan, hein, même s'il n'a aucun lien de parenté. Et de la même façon, l'esclave affranchi, qui a été affranchi, eh bien, lui aussi, il pourra être considéré comme faisant partie du clan qu'il a affranchi. Donc, il méritera que les gens maintiennent des liens de parenté avec lui, alors qu'il n'a aucun lien à la base de parenté, mais il méritera que les gens prennent soin de lui, fassent attention à lui, l'aident et reconnaissent sa filiation. Comme l'a informé ici le prophète alayhi salatu wassalam au clan de Quraysh, en leur disant: vos esclaves affranchis font partie de vous, hein? Ainsi que les gens qui ont un pacte, qui ont pactisé avec vous. Que dire alors de vos neveux et vos nièces, subhanallah. Tayyib? Non. Donc, toute personne qui ont demandé asile ou refuge auprès d'un pays, auprès d'un peuple, hein, eh bien, il peut s'affilier à eux. Une fois qu'il est entré en sécurité, qu'il est entré en paix, eh bien, il aura les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres. Non. وهذا أقره النبي عليه الصلاة والسلام وهو تشريع إلى يوم القيامة من أوى إلى أهل بلدة وليس من جنسهم وليس من نسبهم وسكن وطالت به المدة فهو منهم له ما لهم وعليه ما عليهم لا يستعبدونه ولا يستقذرونه ولا يتبرؤون منه فهو بمنزلة الحليف وبمنزلة المولى فيعطى من الحقوق كأي فرد من الأفراد وهذا واضح والنصوص في هذا الموضوع ترشد إلى أن العبرة بالدين والشرع ولا يجوز التفاخر بالأنساب بل الأمر كما قال الله كما قال رسوله عليه الصلاة والسلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Et donc, cette chose-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a confirmée, l'a soulignée, et c'est une législation qui est en vigueur, qui sera à jamais en vigueur jusqu'à la fin des temps. Donc, celui qui demande asile ou qui demande à vivre auprès d'un peuple ou dans un pays, même s'il ne fait pas partie de leur famille ou qu'il n'a aucun lien, n'a pas les mêmes origines que ce pays-là, mais il y habite, il y a grandi, il y a vécu, et que la période est assez longue, eh bien, il fait partie de eux. Il aura les mêmes droits et les mêmes obligations que ces gens-là. Donc, ils n'auront pas le droit de en faire, yani, مثلاً, un esclave, ou de le rabaisser, ou de le salir, ou de se désavouer de lui, ou de le laisser sans défense si jamais il se fait attaquer. Hein? S'il se fait agresser, ils n'ont pas le droit de le laisser. Non, il n'est pas des nôtres, là. Ils se doivent de le défendre et de le protéger. Et lui de même. D'accord? Donc il devient un allié véritable. Et cela est un droit qu'Allah lui a donné. Et un devoir qu'Allah il leur a imposé. Vous voyez? Donc cela est clair. Et donc on voit que, au final, l'ibra, ce qui est important, c'est le religieux, le côté religieux. C'est le côté de la législation. Et qu'il n'est pas permis de s'enfler d'orgueil parce que tu es de telle ou telle origine. Hada la yajouz. C'est pas parce que tu es d'origine ceci et cela, que tu es meilleur et supérieur aux autres. Tu n'as pas le droit de te sentir supérieur aux autres parce que tu as de telle ou telle origine. Mais au contraire, c'est comme l'a dit Allah tabarak wa ta'ala, le plus noble d'entre vous, hein, auprès d'Allah, eh bien ce sont ou c'est le plus pieux. C'est le plus pieux. D'accord ?
خامسا دليل على وجوب احترام المسلمين من قريش ولا يجوز لأحد الاعتداء عليهم أو المكر بهم أو السخرية منهم أو هضم حقوقهم بل يعترف بأنهم من أشرف قبائل العرب وأن لهم خصائص ليست لغيرهم يعطاها المسلم منهم وأما الكافر وأما الفاجر فَإِنَّهُ يُوكَلُ أَمْرُهُ إِلَّا اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاللَّهُ حَسِبُ.
Et enfin, akhiran, on a la preuve dans ce hadith que la famille, les descendants de Quraysh méritent un respect particulier. Les musulmans parmi eux, bien sûr. Les musulmans, descendants de Quraysh, méritent un respect particulier, et cela en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, lorsqu'il a dit, lorsqu'il les a qualifiés de loyauté. Naam, inna quraishan ahlu amana, inna quraishan ahlu amana, yani quraish, les descendants de quraish sont des gens de loyauté, des gens loyaux. Man bagha bihim كبه الله لمن خيره. Donc celui qui cherche à leur porter préjudice ou à les nuire ou à être injuste envers eux, Allah tabarak wa ta'ala le renversera sur ses deux narines. Yani Allah, il va l'humilier, il va faire qu'il sera perdant, hein. Donc on voit ici que il mérite quand même un respect particulier et qu'il est interdit de les agresser ou de les attaquer ou de porter atteinte à leur bien, leur honneur et leur intégrité physique, ou de ruser contre eux, ou de se moquer de eux, ou de ne pas donner le droit qu'ils méritent. Au contraire, on doit reconnaître, chaque musulman doit reconnaître la noblesse de cette tribu et doit reconnaître que c'est l'une des tribus les plus nobles parmi les tribus arabes. D'accord ? Et qu'ils ont donc des particularités qu'on ne trouve pas dans d'autres nations ou d'autres tribus. D'accord ? Naam. Donc toutes ces choses-là, elles concernent bien sûr le musulman parmi eux. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de kafir parmi eux. Il se peut qu'il y ait des descendants de Quraysh et qui sont parmi les kuffars ou al-fujjar, hein, ceux qui désobéissent à Allah tabarak wa ta'ala, qui font des péchés énormes. Eh bien eux, on laisse leur cas, on le confie à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est Allah qui va les juger. D'accord ? Na'am. Alhamdulillah. Fa al-an nantaqilu ila bab man 'ala jariyatayn أو واحدة. من عال جاريتين أو واحدة. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي عن أبي عشانة المعافري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار كن له حجابا من النار. الله أكبر. كريم.